Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune avec Sylvain Rochon.
Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucien Dale Parizeau.
Mesdames, messieurs, bon midi et bienvenue à La Tribune. À l'émission aujourd'hui, les affaires en temps de pandémie, partie 2. Vous entendrez après la pause le directeur du Centre Desjardins Entreprises, Richard Arsenault, l'intervenante psychosociale, zoothérapeute, intervenante en crise suicidaire et propriétaire d'animothérapie, Geneviève Bélanger. La propriétaire de la boutique d'animaux quartier, une autre Geneviève, Geneviève Boucher, un entrepreneur du secteur culturel, Simon Deschênes, de gestion événementielle Deschênes, la leader en puissance intérieure, prof de Zumba et Piloxing et cofondatrice de C30M, la coach Fallon Jean, le propriétaire de Labarre Chaussures, véritable institution au centre-ville, Philippe Labarre, et un chauffeur de taxi bien sympathique, le vice-président de Taxi Coop, Carl Mongeau. La Tribune, dès après la pause.
Pour un emploi stimulant où tu feras une différence, c'est ici, au Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est. Nous avons des opportunités dans différents secteurs d'activité. Réserve ton entrevue en ligne dès maintenant en visitant le recrutement cissme.com.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Luciedel Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Luciedel Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
Pour aujourd'hui dans le Grand Sorel Tracé avec de la neige à 40%. On parle d'un ciel variable pour la suite des choses. Maximum prévu près de moins 6, mais il y a toujours du refroidissement éolien. On ressentira moins 15 tout au long de la journée. De la neige pour ce soir et cette nuit avec un ressenti près de moins 13.
CJSO 101.7 FM.
Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune. Avec Sylvain Rochon.
Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucien Dale Parizeau.
Alors, à la tribune aujourd'hui, les affaires en pleine pandémie, une question que nous abordons pour la deuxième semaine consécutive avec des entrepreneurs œuvrant dans une variété de domaines. Mon premier invité n'est pas un entrepreneur, mais quelqu'un qui connaît bien les défis auxquels ils doivent faire face. Je m'entretiens avec le directeur du Centre Desjardins Entreprises à Sorel-Tracy, Richard Arsenault. Bon midi, Monsieur Arsenault.
Bon midi, Monsieur Rochon, vous allez bien?
Je vais très bien. Good. Alors, Monsieur Arsenault, c'est pas une période facile pour les entrepreneurs. On dit qu'environ 181 000 propriétaires de PME envisagent de fermer de façon définitive au Canada. Risque-t-elle d'être nombreuse chez nous, les entreprises, à ne pas pouvoir traverser la crise?
Écoutez, Monsieur Rochon, je comprends tout à fait cette statistique-là, puis particulièrement que la pandémie semble s'étirer déjà depuis plusieurs mois. De mon point de vue à moi, puis chez Desjardins, l'analyse qu'on en fait tout de même tout autre que ça.
Ah ouais, vous êtes plus positif que ça, vous.
Le verre est beaucoup plus plein que ça. Je vous dirais que puis les mesures gouvernementales, juste dans la région de Sorel-Tracy, là, c'est plus de 530 entreprises là, qui ont eu accès à des mesures gouvernementales. On ne vous dit pas que c'est facile, comme dans n'importe quel changement, qu'est-ce que ça fait? Il y a des entreprises qui allaient bien, qui continuent de bien aller. Il y a des entreprises qui allaient mal, puis que la COVID a venu justement replacer dans des modèles d'affaires différents, puis leur a permis de prospérer même à des rythmes qui n'auraient jamais été au rendez-vous sans ça. Mais je vous dirais, M. Rochon, que nos indicateurs chez Desjardins, on est très positifs. Je regardais encore ce matin, puis je compare avec l'ensemble des secteurs, là. Notre portefeuille de crédit dans le mouvement Desjardins est en excellente position. On est prudent. Actuellement, les mesures gouvernementales, les prochains mois vont dicter pas mal ce qui va se passer. Mais la région de Sorel-Tracy, bonhomme en an, au cours de la dernière année, je n'ai pas plus de recouvrement que je peux avoir dans d'autres secteurs, c'est-à-dire très, très peu, parce que les mesures gouvernementales ont supporté. On sait que c'est immense ce qui a été fait. Fait que moi, je suis très, très, très confiant. Puis il s'est passé quelque chose dans la région de Sorel-Tracy que les gens voient pas, que nous, de notre point de vue, on voit beaucoup. Il y a eu beaucoup de consolidation, M. Rochon, dans la région de Sorel.
Okay.
Au cours de la dernière année, moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaissait depuis des longues dates, puis qui ont fait des transferts d'entreprises, puis les sièges sociaux, le pouvoir est demeuré dans la région de Sorel-Tracy. Fait que pour moi, c'est très encourageant. On est tout de même aussi dans un marché dans lequel l'immobilier va très bien. Elle ne connaît pas le surboom qui est connu dans d'autres régions. Puis je dois vous avouer que je trouve ça très sain ce qui se passe actuellement. Fait qu'on vous dit pas que c'est facile. Ça demande de la patience. Ça demande beaucoup d'échanges. Mais actuellement, M. Rochon, la région de Sorel-Tracy m'inquiète pas outre mesure.
Okay.
Donc, continue d'accompagner nos entreprises vraiment dans ce sens-là.
Bon, je reviens à mon sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Remarquez, c'est peut-être un groupe alarmiste, ça, je sais pas. Au niveau canadien, on dit que les PME en arts, loisirs et divertissement représentent 33 % des entreprises en difficulté. C'est celles qui ont le plus de misère. La restauration, 28 %.
Oui.
Le commerce de détail jusqu'à 15 %. Alors, bien qu'ici, là, ce soit pas aussi noir qu'ailleurs au Canada, ou si ces chiffres-là sont bons, là, est-ce que, par ailleurs, par secteur, ça se vérifie pas mal, là, ce que je viens de vous dire, là. C'est surtout les entreprises en arts, loisirs et divertissements qui en arrachent après ça la restauration, puis enfin le commerce de détail.
Ben, on va reprendre, pour reprendre la statistique, puis elle est importante. Moi, je pense que le sondage, il lance davantage un signal d'alarme à nos gouvernements. Puis ça, c'est important que les gouvernements l'entendent. On a remarqué, M. Rochon, puis vous l'avez vu dans la région, puis un peu partout à travers la province de Québec, il y a certains commerces, là, de la COVID qui ont explosé. On pense, par exemple, à toutes les quincailleries, on pense au domaine de la construction, qui ont eu des très belles croissances. On n'arrive pas à fournir la demande des terrains de camping qui, au début, se demandaient comment allait passer la COVID. Moi, je pense qu'il faut retenir que les gens, ils ont grand besoin de consommer. Les gens ont envie de tourner au restaurant rapidement. Les gens, ils ont envie d'avoir des spectacles. Ils ont envie de vivre. Naturellement, on manque de la patience. Puis le sondage, je le perçois, moi, de ma façon dont je le perçois, c'est un gros cri d'aide au gouvernement de dire, oui, vous devez prendre des mesures, mais il ne faut surtout pas oublier, puis j'appuie ce sondage-là aussi, que ça va prendre soit des mesures compensatoires, mais je vous dirais, M. Rochon, de contrôler des entrepreneurs à tous les jours, là. C'est des gens qui veulent continuer en business, la grosse majorité. C'est un cri d'aide que moi, je sens au niveau du sondage, que je partage. Puis j'ai bien hâte de voir nos gouvernements, comment qu'on va réagir au cours des prochaines heures, parce qu'on a une autre conférence encore aujourd'hui. Je suis confiant, je vous dirais que les entrepreneurs, ils ont bien utilisé leur liquidité depuis le début de la COVID, ce qui fait en sorte que je vous le dis, là, très peu d'entreprises, malgré que c'est pas facile, ils sont venus vraiment bien se placer financièrement, puis ils tentent de passer, ils serrent les coudes, puis ils ont besoin d'aide à plusieurs niveaux par rapport à ça. Et moi, je suis convaincu, en tout cas, nous, Desjardins, une entreprise qui était là avant, qui prospérait bien, on va tout faire pour maintenir nos entreprises en vie. S'ils veulent continuer par rapport à ça, soyez assurés de ça.
OK. Les gouvernements ont annoncé de l'aide aux entreprises, ont mis sur pied des programmes ponctuels. Il y en aura peut-être d'autres. Les villes et les MRC ont également voulu leur donner de l'oxygène. C'est le cas chez nous dans Pierre-de-Sorel. Est-ce que c'est assez?
Ça va dépendre. Ben moi, je pense que on va prendre le preuve d'urgence que le gouvernement avait donné dans le premier temps. Si on parlait de 40 000 $, il a été très largement utilisé. Je vous l'explique, rien que dans la région de Sorel-Tracy, c'est 27 millions qui ont été injectés dans les entreprises. Votre question est très pertinente. 27 millions, il est à banque pour les premiers mois. On l'a vu rapidement, là, le taux d'utilisation de nos marges de crédit était très faible. C'est-à-dire que les gens ont récolté le compte à recevoir massivement partout, partout à travers la province de Québec. Et là, naturellement, on voit que le gouvernement y anticipe, il a déjà élargi le programme dans une deuxième tranche là, pour aller chercher un autre 20 000 pour les entreprises qualifiantes. Et les gouvernements, tant avec Investissement Québec, avec le MRC, toutes les mesures gouvernementales sont en place pour supporter. Naturellement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nos gouvernements vont être capables de bien rembourser ça un jour? Moi, je suis confiant quand je regarde les statistiques, puis je regarde la position du Canada actuellement, tout de même un excellent pays, on est capable de traverser avec une crise du genre M. Rochon, beaucoup plus que les gens peuvent l'imaginer. C'est sûr que ça peut sembler alarmant. Les prochaines semaines, les prochains mois vont être importants, la réaction du gouvernement et le sondage que vous avez en est tout à fait porteur. Il faut garder le moral au niveau de nos entrepreneurs. On ne peut pas faire autrement que les encourager dans tout ça puis donner des mesures pour conserver, surtout dans la région de Sorel-Tracy. M. Rochon, il y a des beaux projets qui s'en viennent tout près de chez nous. Fait que moi, je suis confiant, très optimiste pour les prochains mois.
Monsieur Arsenault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Toujours un plaisir, M. Rochon.
Merci. Bonjour. Et maintenant, on va parler à Geneviève Bélanger, qui est intervenante psychosociale, zoothérapeute, intervenante en crise suicidaire et propriétaire d'animothérapie. Bonjour, Geneviève Bélanger.
Bonjour.
Geneviève, vous riez parce que votre carte d'affaires est longue, hein?
Oui, c'est ça. J'allais dire, oui, mon titre, il est quand même assez long.
Votre entreprise est relativement récente. Je parle de l'entreprise Animothérapie. Son offre qui arrive en pleine pandémie, est-ce qu'elle tombe pile poil, sans jeu de mots, ou est-ce qu'elle ne peut pas plus mal tomber? Arrivez-vous au bon moment, vous, là?
Oui, dans le fond, l'entreprise existe, ça fait un an et demi qu'Animothérapie a été fondée. Ça fonctionnait déjà bien au départ, mais je vous dirais que là, la demande est vraiment très forte. Les psychologues, les psychoéducateurs, ils ont des listes d'attente assez longues. Puis c'est une approche aussi qui est très différente avec les animaux. On est vraiment dans l'action, dans le moment présent. Que ça donne des bons résultats.
OK. Vous avez une écurie à Yamaska. Ça sonne pas mal cheval, ça, mettons, équitation. Est-ce que ça devrait sonner autre chose? Je sais pas, moi, chien, lapin. Puis là, j'essaie de trouver d'autres choses qui finissent en un.
Oui, bien, en fait, Animothérapie, on n'est pas un centre d'équitation. On est vraiment un centre de zoothérapie et de ressourcement. Effectivement, on a 7 chevaux, mais on a aussi des lapins. On travaille aussi avec des chiens. On a plusieurs animaux. C'est sûr que moi, ma particularité, c'est surtout avec les chevaux. Mais dans l'équipe, on a des intervenantes qui travaillent principalement avec des chiens. On a aussi des gens qui travaillent avec des lapins. Ça dépend aussi de l'intérêt de la clientèle.
À qui le contact avec un animal peut-il bénéficier? Est-ce que vous avez des histoires touchantes à nous partager de vie là, que la zoothérapie a littéralement changé?
Oui, ben en fait, c'est surtout, je pourrais dire, les histoires les plus touchantes sont vraiment avec les chevaux, à prime abord, parce que nous, l'homme, on est un prédateur, puis le cheval, lui, c'est une proie. Fait que quand on le regarde, on le trouve immense, beau et tout, mais à travers le cheval, c'est un animal qui est très, très, très anxieux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est capable de ressentir vraiment l'émotion de la personne, puis des gens qui ont des difficultés au niveau de l'anxiété, des abus sexuels, de la colère, ils ont vraiment besoin de travailler fort pour eux pour arriver justement à être en contact avec le cheval, parce que si on est en colère, il va avoir des signes de colère, si on est anxieux, il va être anxieux, fait qu'on doit vraiment se positionner en tant que personne pour arriver là, à être en contact avec lui.
OK. Vous dites que vos affaires vont bien, plutôt bien, pendant la pandémie. Comment vous fonctionnez, Mme Bélanger, pendant la pandémie?
Ben, en fait, c'est sûr que, étant donné qu'on est un service essentiel en relation d'aide en santé mentale, on est encore ouvert. Les centres équestres, eux, sont pas accessibles. Moi, c'est ce qui me sauve un petit peu, si on veut. Dans le fond, les gens, ben, quand ils viennent en première pour une première rencontre, on se rencontre seul à seul dans un bureau avec on porte le masque, la distanciation sociale est respectée. Puis on travaille, je travaille principalement dehors. Fait que même que ça soit en hiver ou en été, là, on est bien habillés et tout. Fait qu'on travaille vraiment, je travaille en distance avec eux, puis ils sont en contact avec l'animal.
Où êtes-vous installé à Yamaska? Dans quel coin de Yamaska?
Dans le fond, on est au début sur le rang du petit chenal qu'on est situé.
OK. Et puis, je pense que vous avez aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous avez eu, avez-vous toujours un pied-à-terre au centre-ville de Sorel-Tracy?
Oui, on a un bureau aussi à Sorel parce qu'on a de la clientèle, dans le fond, qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir les animaux avec eux. Fait que quand que c'est quelqu'un qui veut vraiment seulement être en intervention, à ce moment-là, ils ont la possibilité de venir à notre local de Sorel.
Est-ce qu'on vous trouve sur Facebook? Avez-vous un site web?
Oui, dans le fond, Facebook Animothérapie, A-N-I-M-O-T-H-E-R-A-P-I-E. Puis on a un super beau site web aussi, www.animothérapie.com.
Geneviève Bélanger, merci et la meilleure des chances avec Animothérapie.
Merci, M. Rochon.
Merci.
Bonne journée à vous.
À vous de même. On passe de Geneviève Bélanger à Geneviève Boucher. Elles n'ont pas que leur prénom en commun, mais leur passion des animaux. Geneviève Boucher est propriétaire de la boutique d'Animaux Quartier. Bonjour, Geneviève.
Bonjour, M. Rochon.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Votre secteur a été désigné essentiel. C'était pas mal incontournable. Il faut les nourrir, ces petites bêtes-là.
Oui, bien sûr. Notre boutique est un commerce essentiel, alors on peut vendre tout le nécessaire pour les animaux. Par contre, notre salon de toilettage a été considéré non essentiel, alors pour les bains, les coupes de griffes, les tontes d'animaux, ce service-là est fermé là, jusqu'à nouvel ordre.
Le marché de l'animal de compagnie, c'est un marché qui explose. On pouvait lire ça, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier dans la presse. Est-ce que vous constatez ce boom-là chez Boutique d'Animaux Quartier?
C'est sûr que l'adoption des animaux est en croissance. Les gens trouvent que d'avoir un animal de compagnie pendant le confinement, ça désennuie. Oui, il y a une augmentation. C'est sûr que nous, notre mandat, c'est de beaucoup informer les gens, les sensibiliser aux besoins, la durée de vie des animaux, que c'est pas juste durant le confinement là, qu'on veut que les gens gardent ces animaux-là. Alors, on est présent pour bien informer la population par rapport à leurs achats, pas juste chez nous. Là, je veux dire, il y a plein de gens qui adoptent des chiens, puis on les informe aussi. Nous, on vend pas de chiens, là, mais on donne beaucoup d'informations pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'abandon suite au confinement, là, quand les gens vont reprendre une vie un peu plus normale.
Ah, ce que j'entends, c'est qu'on se laisse séduire par un animal de compagnie, on le trouve mignon, là, puis des fois, on peut déchanter quelques jours plus tard.
C'est sûr. Moi, j'aime bien quand les gens viennent en boutique, on va jaser avec eux autres, on leur donne l'information, mais j'aime bien qu'ils prennent le temps de bien réfléchir avant d'adopter l'animal, pour savoir dans quoi qu'ils s'embarquent exactement. Tu sais, oui, au début, les enfants, ils ont toujours un très grand engouement quand il y a un nouvel animal dans la maison, mais par la suite, il y a l'entretien qui rentre en ligne de compte, puis des fois, les enfants veulent pas toujours le faire, puis là, c'est les parents qui se ramassent à nettoyer les cages, et puis là, des fois, ça crée des petits conflits dans les familles, mais c'est ça, c'est de bien informer pour être sûr qu'ils savent dans quoi qu'ils s'embarquent.
Dressez-moi donc, Geneviève, un palmarès des animaux les plus vendus chez vous, mettons de 1 à 5, là, du plus populaire au cinquième plus populaire.
Bien, c'est sûr que je ne pourrais pas vous les nommer un par un comme ça, mais le département des rongeurs, c'est lui qui était en plus grande croissance là, depuis le mois de mars de l'année dernière. Des petits rongeurs surtout, là, on va sensibiliser les gens parce que les petits rongeurs, l'espérance de vie est plus courte. Fait que tu sais, des fois, quand c'est leur premier animal de compagnie, c'est une bonne chose de commencer avec un animal que l'espérance de vie est plus courte, savoir si on va s'adapter à ça, si on va aimer ça. C'est sûr que les petits rongeurs comme les hamsters, les rats sont très populaires. Ensuite de ça, il y a le lapin, le cochon d'Inde aussi qui est très populaire, la vente d'oiseaux aussi arrive en second plan, et puis les poissons aussi. L'aquariophilie, là, le domaine a beaucoup augmenté aussi.
Vous, Geneviève, quel est votre animal préféré?
Eh mon Dieu, là, ça c'est une grande question. je vous dirais que le chat est pas mal mon animal préféré. En première ligne, mais j'en ai beaucoup. Là, le chien aussi, là, le chat, c'est pas mal sa première ligne, mais j'ai une petite tendance pour les chats.
C'est drôle que vous parliez du chat, parce que il y a une dame qui m'a appelé ce matin découragée de devoir laisser son chat derrière elle parce qu'on ne l'accepte pas là où elle s'en va habiter. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je crois que c'est un HLM. Est-ce qu'on devrait faire une plus grande place aux animaux de compagnie dans nos institutions HLM, CHSLD, résidences privées pour aînés? Est-ce qu'il faudrait, on devrait être plus ouvert à ça, vous trouvez?
C'est sûr, c'est sûr. Les animaux apportent tellement aux gens, c'est tellement important qu'ils puissent garder leurs animaux avec eux. Ça leur donne une qualité de vie vraiment plus intéressante.
Alors, pour traverser la pandémie, un animal de compagnie, c'est un bon choix.
C'est un bon choix, mais il faut que ça soit bien réfléchi.
D'accord. Merci beaucoup, Geneviève Boucher, de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous de l'invitation.
Merci. Après la pause, on va parler avec Simon Deschênes de gestion événementielle Deschênes et avec la leader en puissance intérieure, prof de Zumba et Piloxing et cofondatrice de C30M, la coach Fallon Jean. Je suis très, très curieux, là. Leader en puissance intérieure. Wow!
Bon, qu'est-ce que je pourrais bien préparer pour le prochain repas?
Vous êtes fatigué de préparer tous vos repas et vous aimeriez vous gâter un peu? Voyez la liste des restaurants de la région qui offrent un service de commande à emporter et ou de livraison durant la période de fermeture des salles à manger sur la page Facebook de CJSO ou sur cjso.ca. Encouragez les restaurateurs de chez nous. Une invitation de CJSO et du magazine Bravo.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune avec Sylvain Rochon.
Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucien Dael Parizeau.
Alors à La Tribune aujourd'hui, les affaires en pleine pandémie, une question que nous abordons pour la deuxième semaine consécutive avec des entrepreneurs œuvrant dans une variété de domaines. Bonjour Simon Deschênes.
Bonjour, ça va?
Eh oui, ça va bien. Vous?
Ben, ça va très bien.
Excellent.
Malgré tout, ça va.
Vous œuvrez dans un domaine cruellement impacté par la crise, mais extraordinairement créatif, le secteur culturel. Ça fait des mois que cette crise-là dure. Est-ce qu'il vous est arrivé, Simon, de vivre des moments de grand découragement?
Oui, effectivement. Au mois de mars, l'an dernier, on a été très déçus. On a été les premiers, en fait, à disparaître là, du domaine, en fait, ben, pas du domaine, mais de la cartographie des emplois au Québec. Parce que tout ce qui était événementiel, là, événements, congrès, festivals, disparaissait là, du calendrier. Donc, s'en est suivi, là, mars-avril, là, une petite déception, puis on croyait que juin-juillet, c'était pour revenir, et ainsi de suite, mais malheureusement, ça ne fut pas le cas.
Mais qu'est-ce que... Comment vous avez fait pour conserver le moral? Je ne parle pas de vos initiatives là, entrepreneuriales, là, mais dans votre tête, là, comment vous avez fait pour continuer à affronter tout ça?
Ben, il faut être fait fort, veux pas, parce que c'est des déceptions l'une après l'autre. Là. On travaille sur un projet, oups, finalement, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on a diminué les montants de personnes qui peuvent assister ou... vice-versa, là, ça a été vraiment de travailler sur le mental puis de dire qu'un jour ou l'autre, moi, mon domaine, je l'adore, puis je le quitterai pas pour rien au monde, mais à un moment donné, on se pose des questions, mais faut voir plus loin que demain, mettons.
Vous, c'est une entreprise familiale, vous avez pris en quelque sorte la relève de votre père?
Oui, bien, en fait, ma compagnie qui était dans le monde de l'audiovisuel, mon père qui était dans le côté plus divertissement, jeux gonflables pour... fêtes d'enfants, festivals et événements de tout genre. Avec ça, dans le fond, en 2019, on a regroupé les deux entreprises. J'ai pris la tête de gestion événementielle des chaînes qui combinait le tout, dans le fond, là, pour faire une compagnie qui offre tous les services événementiels clés en main.
OK. On vous connaît pour le parc Musifilm à l'été 2020. Est-ce qu'il est possible que ce parc-là revienne l'été prochain? Est-ce que vous avez le sentiment de tenir quelque chose avec ce concept-là et ce site-là à l'ombre du complexe de la 30?
Bien, on tient quelque chose. C'est sûr que l'an dernier, vu tout ce qu'on a fait à dernière minute, ce fut quand même un succès, là, on peut le dire comme ça. On regarde là, tout ce qui s'en vient par rapport à l'événement au Québec avec les mesures qui sont encore en suspens présentement. Donc, on dit pas non à une édition numéro 2, mais on va regarder un peu, on va attendre un petit peu plus avant de se prononcer officiellement, mais on n'a pas fermé la porte du tout. Le dossier est très près sur mon bureau.
Ça, c'est difficile de prévoir beaucoup à l'avance.
Bien, surtout qu'on ne se le cachera pas, de faire 8 festivals ou 10 festivals dans un été pour une compagnie comme la mienne, ou de faire un seul événement qui requiert 2-3 jours par semaine, c'est complètement une autre dynamique. Là. Normalement, dans un été normal, on fait 6 à 7, même peut-être 8 événements par semaine parce qu'on a plus qu'une équipe, parce que c'est beaucoup plus dégourdi comme environnement, tandis que là, ben, Musifilm, c'était un événement, une édition, une équipe. Malgré que c'est une très grosse équipe, on ne se le cachera pas. On peut faire travailler beaucoup plus de gens en temps normal.
OK. Votre initiative plus récente, ce sont des shows sur les terrains de l'Hôtel de la Rive dont on peut assister des balcons de l'hôtel. C'est très original. Ça a connu beaucoup de succès. Puis là, il y a une nouvelle série de spectacles qui est annoncée par l'EMA.
Oui, tout à fait. Bien, en collaboration avec l'Hôtel de la Rive, avec le propriétaire, on a mis sur pied, en fait, là, quand ils m'ont approché pour voir à faire des événements un peu plus différents pour l'hôtel, bien, on a regardé les possibilités, puis on en est venu à la conclusion que 57 chambres d'un côté de l'hôtel, face à une très belle vue qui est le Club Saint-Laurent, pouvaient être un attrait un peu touristique, même en même temps, c'est les gens de la région, mais justement, on se disait que les gens de la région n'avaient peut-être pas nécessairement découvert ce qu'était l'Hôtel de la Rive, puis là, de leur proposer une version soit soirée DJ ou soirée chanson, ben ça pouvait être une alternative là, aux gens de la région qui pourraient se déplacer à l'hôtel, voir un spectacle, puis changer les idées, parce que je veux pas le niveau culturel présentement, on voit du virtuel, mais en présentiel, on n'en voit pas beaucoup. Donc, c'est une idée là, de... Puis, toutes les contraintes sanitaires sont respectées. Les gens sont conviés dans une chambre qui est la leur pour la soirée. Ils ne doivent pas sortir de leur chambre. Leurs repas sont livrés à eux. Il n'y a pas de... Tout se fait dans les règles de l'art. Là. Autant pour les musiciens ou les DJ sur scène sont protégés de plexiglas. L'équipe technique et les régies sont divisées. Au lieu d'avoir une seule régie, il y en a deux pour les deux opérateurs. Le caméraman est à l'écart, porte le masque, ainsi de suite, les lunettes. Donc, On a pris ça très au sérieux pour offrir quelque chose, encore une fois, de différent, mais qui est très populaire, là, si on en croit, à tous les événements qu'on a pu
offrir. C'est une belle idée. C'est une belle idée. Puis là, il y a de nouvelles dates, là.
Tout à fait. En fait, là, on attend les dernières communications avec la santé publique, mais en théorie, on devrait être de retour les 12, 13 et peut-être même 14 février. Puis ensuite de ça, à tous les week-ends, là, jusqu'à, si on peut dire, épuisement à la blague, là.
Les deux, Geneviève, nous parlaient tout à l'heure des bienfaits de la zoothérapie. Les arts, la culture, c'est thérapeutique aussi? Ça fait du bien à l'âme?
Oui, bien certainement. Pour nous, en tant que techniciens, ça fait du bien aussi parce qu'on travaille à offrir, à gâter les gens, à ce que les gens soient heureux. Donc, quand les gens ressortent d'un événement ou d'un spectacle, d'un festival, sourire aux lèvres, puis qui ont trippé à voir leur artiste préféré ou un spectacle de la danse, peu importe. On peut parler aussi des écoles de danse qui font des spectacles pour les enfants, qui les parents viennent voir les enfants. Ça fait partie aussi de cette fierté-là de voir ses enfants assister à un spectacle. Donc, quand nous, on rend le spectacle assez intéressant pour que tout ça fasse une chose, ben ça fait partie de notre paye, là, veux, veux pas.
Est-ce que le secteur culturel, c'est un secteur que nos gouvernements supérieurs et de proximité supportent suffisamment?
Je voudrais pas m'attirer des foudres, mais je dirais que non. En fait, on est un peu oublié, je crois. Là. C'est sûr que je peux dire que les entreprises privées dans ce domaine-là sont oubliées. Ceux qui sont publics là, et subventionnés, eux, sont un peu plus supportés. Et c'est peut-être normal dans un sens. Mais non, il n'y a aucun... mis à part tout ce qui existe pour les autres entreprises, on peut y adhérer, mais souvent, on passe au travers des mailles du filet.
Vous êtes confiant pour les prochains mois, Simon?
Oui, bien, on l'espère. On voit que la tendance des hospitalisations descend, des cas aussi. Donc, on espère peut-être... on pense qu'on va perdre une petite partie du début de l'été, mais qu'on pourrait revenir en force là, à mi-juillet, début août, pour revenir à la normale, du moins ce qu'on vivait en 2019. Là.
On vous le souhaite. Merci beaucoup, Simon Deschênes.
Bien, merci à vous.
Merci. Un corps sain dans un esprit sain qui dise, on devrait pouvoir atteindre ça avec Fallon Jean. Bon midi, Fallon.
Bon midi, M. Rochon.
Leader en puissance intérieure avec du coaching et des conférences, vous aidez les entrepreneurs à retrouver leur puissance intérieure. Expliquez-moi ça. Expliquez-leur ça aux entrepreneurs à l'écoute là, qui ne vivent pas le plus bel épisode de leur vie.
Non, bien effectivement, c'est pas facile pour plusieurs. En fait, ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai réussi à trouver pour moi. En fait, la puissance intérieure, c'est l'amour de soi, c'est la confiance en soi et c'est s'accrocher à quelque chose de plus grand que soi, donc d'avoir une mission profonde. Et c'est ce que j'enseigne aux entrepreneurs du mieux que je peux.
Qu'est-ce qui vous a amené à délivrer cet enseignement-là?
Mon expérience entrepreneuriale, je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. Ça n'a pas été facile rentrer dans le monde des affaires. Il y avait beaucoup d'hommes. J'ai eu de la difficulté à prendre ma place. Et en fait, une des choses que personne m'a dit quand j'ai commencé en affaires, c'est l'importance de m'aligner sur une mission de vie, sur quelque chose de plus grand que moi, et m'aligner sur mes valeurs profondes. Et je me rappelle avoir déjà demandé à Laurent Cournoyer, « OK, mais tu sais, une fois qu'on fait de l'argent, pourquoi t'arrêtes pas de travailler tout simplement? » Puis il m'a dit, « Un jour, tu vas comprendre. » Puis maintenant, j'ai compris. C'est d'avoir envie d'aider les gens, c'est envie d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. Donc, c'est au lieu d'être drivé par l'argent, ce qui m'a permis de commencer un peu en entrepreneuriat. En fait, au lieu de chercher un chiffre d'affaires, je cherchais qu'est-ce que moi, je pouvais apporter aux gens, comment est-ce que je peux les faire grandir, comment est-ce que je peux les faire briller. Et moi, c'est ce que j'ai appris quand j'ai dû tout fermer en 2015 et que je me suis reconstruite sur une nouvelle identité, c'est-à-dire qui je suis, c'est quoi mes valeurs, puis quel impact je veux avoir. C'est là où est-ce que j'ai découvert beaucoup plus de puissance à l'intérieur de moi, ce qui me permet d'avoir assez de résilience pour continuer même dans les défis comme le COVID ou autres défis qu'on peut rencontrer.
Alors, juste faire du fric, c'était pas si satisfaisant que ça, finalement. Ça suffisait pas.
Ben pas du tout, pas du tout. En fait, à un moment donné, tu te rends compte que c'est tout. C'est rien de plus que ça. Puis je me suis dit, ah, c'est plate. Il doit y avoir quelque chose de mieux que ça dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où est-ce que j'ai découvert ma mission de vie. Puis je me suis dit, si moi, j'en aurais eu besoin pour le 10 ans ou le 5 ans, il y a sûrement d'autres personnes qui ont besoin d'apprendre à se connaître en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, pour propulser leur entreprise. Donc, si c'est quelque chose que j'aurais eu besoin, ben maintenant, c'est ce que j'offre.
Et ce temps de crise, cette pandémie, c'est un beau moment pour faire de l'introspection?
Oh mon Dieu, oui, tout à fait. En fait, c'est toujours un bon moment, particulièrement en ce moment où est-ce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Puis je peux comprendre qu'il y a plusieurs entreprises pour qui c'est pas facile, mais c'est justement un bon moment pour, tu sais, peut-être pas entamer une psychothérapie pour 5 ans, mais tu sais, juste aller voir est-ce que mon entreprise était vraiment alignée, est-ce que moi je suis vraiment à la bonne place, est-ce que c'est encore ça que je veux faire, qu'est-ce que je préfère de mieux, qu'est-ce que je préfère de différent. Je pense que c'est un bon moment aussi pour aligner son focus sur c'est quoi les opportunités que je peux trouver à travers ça, qu'est-ce que je peux apprendre à travers la crise, plutôt que de focusser sur le problème, parce qu'effectivement, c'est un problème, c'est pas juste nous, là, c'est tout le monde qui vit ça. Fait que d'aller voir, tu sais, peut-être, il y a plein d'entrepreneurs qui se sont reconnectés avec leur famille, qu'ils travaillaient tellement qu'ils avaient oublié l'importance des valeurs familiales, ou qui ont redécouvert le sport, ou qui ont ouvert une deuxième compagnie, ou qui ont commencé la vente en ligne, qui ont fait comme, oh wow, si je fais ça, je peux faire plus d'argent et travailler peut-être un peu moins et aider plus de gens. Fait que ça a apporté aussi beaucoup d'opportunités. Ça dépend, selon moi, où est-ce qu'on met le focus.
OK. L'amour de soi, vous en avez parlé tantôt rapidement, est l'une des clés du succès en affaires. Ce sera le sujet de votre super conférence, comme ça que vous l'appelez, de la Saint-Valentin.
Oui. Ben oui, absolument. Ben écoute, ça, c'est mon humble avis, c'est ce que j'ai découvert. En fait, c'est une des raisons pour laquelle je suis aussi disciplinée, puis une des raisons pour laquelle je veux donner le meilleur de moi, c'est par amour pour moi. Donc, tu sais, d'aller m'entraîner, de faire des formations, d'aider les gens, ça part toujours de qu'est-ce que je peux apporter à moi. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu t'aimes assez pour te lever tôt le matin, pour faire qu'est-ce qu'il faut, pour continuer à travailler même en pleine pandémie, tu sais, ça revient à l'amour de soi. Est-ce que je m'aime assez pour faire qu'est-ce qui est difficile, même quand c'est ultra difficile? Puis, tu sais, ça revient aussi, ben, je vais parler pour mon domaine, mais tu sais, l'entraînement, un style de vie sain, passer du temps avec sa famille, ça revient toujours à l'amour de soi, parce que tout donner aux autres, si tu n'apprends pas à t'aimer toi, ben il y a un vide qui se crée à un moment donné, c'est sûr. Donc, l'amour de soi, c'est là où est-ce que la puissance intérieure commence, et c'est ce qui est là pour moi. Fait que j'imagine que c'est là pour d'autres personnes, c'est ce que je vois à travers mes coachings, mais une des raisons pour laquelle je suis aussi disciplinée et que j'ai une bonne confiance, c'est parce que ça part de l'amour de moi automatiquement.
Ces conférences, dont celle de la Saint-Valentin, vous les donnez comment? Ce sont des conférences virtuelles, pandémie oblige?
Ben oui, toutes par Zoom. C'est des heures de Zoom par semaine, c'est sûr, parce qu'on ne peut plus avoir de public. Mais ouais, la conférence du 14 février, ça s'adresse aux entrepreneurs. C'est pour découvrir l'amour de soi. On va être quatre conférenciers. C'est une super belle conférence. Parce qu'il reste que l'entrepreneuriat, ça demande tellement d'efforts, tellement de dons de soi, tellement de créativité, tellement de focus, de puissance, de mindset qu'à un moment donné, si tu n'apprends pas à t'aimer toi à la base, si tu n'apprends pas à prendre soin de l'humain derrière l'entrepreneur, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va manquer dans l'équation. Donc, la base, c'est d'apprendre à s'aimer pour être capable d'offrir le meilleur de soi aux autres. Fait que c'est ce qu'on va parler dans la conférence du 14.
Leader en puissance intérieure, mais aussi prof de Zumba puis de Piloxing. Que sont devenus le Zumba, le Piloxing, le C30M? Est-ce que la conférencière a pris le pas sur l'éducatrice physique?
Oui et non, dans le sens parce que je donnais plus beaucoup de cours dans mes gyms. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière avec le Zumba à Sorel. Ça a été des super belles années incroyables. Juste avant la pandémie, je donnais encore un seul cours de Zumba par semaine. Fait que je le fais par passion, plus pour développer ma carrière. C'est juste parce que j'adore mon groupe du lundi, dont je m'ennuie énormément. Donc oui, tout a été transféré en ligne. Moi, présentement, je donne plus de cours en ligne parce que je donne beaucoup de conférences. Donc, j'ai décidé d'arrêter le Zumba en ligne pour le moment, mais on va voir quand ça va repartir pour les cours de Zumba en vrai, combien de temps ça va prendre, puis où est-ce que je vais être rendue dans ma vie rendue là. Mais mes gyms, eux, ils font énormément de cours en ligne. On s'est super bien adaptés. Je suis pas physiquement dans mes trois gyms, évidemment, en même temps. Là, ils sont tous fermés, mais on s'est très bien adaptés en ligne aussi.
Parce que les gyms, on dit qu'ils ont, pour plusieurs, du mal à survivre à la pandémie. Certains ferment définitivement leurs portes. Chez vous, ben, on réussit à passer à travers.
Ben, totalement, parce que bon, tout est une question de mindset, tout est une question de où est-ce qu'on met son focus, comme je l'ai dit tantôt. Puis je parle pour mon domaine, puis pour mes succursales, c'est différent pour chaque personne. C'est juste que tu sais, j'ai une équipe de feu dans mes trois succursales. Dès que la pandémie est arrivée, tout de suite, on a commencé les entraînements en ligne. On a eu des subventions pour partir une plateforme en ligne. À l'intérieur des premiers mois, tout de suite, notre plateforme était prête. Au mois d'avril-mai, je pense qu'ils ont permis l'entraînement dehors. Donc, dès que ça a été ouvert, on avait 24 entraînements par semaine avec tous nos coachs dehors pour faire de l'entraînement un peu partout à travers les trois villes, Sorel, Varennes et Saint-Hilaire. Puis dès qu'on a réouvert les gyms, tout de suite, on avait un programme pour réserver. Nos clients pouvaient réserver aux 5 minutes. Les mesures sanitaires étaient là. Tu sais, on était ultra proactifs. Je pense qu'un entrepreneur, c'est fait pour entreprendre. Donc, on a entrepris plein de projets. On fait la livraison de produits à domicile. Si les clients ont besoin de bandes élastiques pour s'entraîner ou des shakes ou quelque chose comme ça, on va livrer sur les balcons sans contact. On est avec eux sur Zoom. On fait des Zooms à chaque semaine pour les garder motivés. T'sais, les femmes, c'est pas facile avec le télétravail, les enfants à la maison, tu sais, s'entraîner à la maison, je comprends que c'est un challenge. Fait qu'on travaille tellement fort par mission, parce que nous, on est propulsé par la mission de faire un impact dans le monde, faire un impact pour les femmes. Fait que, tu sais, je pourrais m'asseoir, attendre puis pleurer parce que mes gyms sont fermés, mais la vérité, c'est que, tu sais, nous, on a beaucoup d'aide. Je parle pour mes succursales, mais on a beaucoup d'aide avec le gouvernement, avec les subventions, puis tout ça. Fait que j'ai pas à me plaindre personnellement parce que nos clientes sont ultra fidèles. Nos guerrières sont fidèles au poste. Il y en a beaucoup qui continuent de nous encourager. Ils sont là, ils font nos programmes en ligne. Fait que, tu sais, on réussit à aller par Internet faire un bon chiffre d'affaires quand même. Tu sais, c'est différent d'avoir des succursales ouvertes. ça prend de la résilience pour savoir qu'il va falloir travailler ultra fort pour rebâtir ce qu'on avait bâti. Mais comme disait Simon tantôt, à partir du moment où tu as la vision infinie, que tu es capable de voir 2022, 2023, 2024, et que ta passion et ta mission est assez forte, ben je pense qu'avec avec un bon focus, c'est possible de rester positif malgré tout. Mais tu sais, il y a des domaines qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, je comprends ça.
Oui, merci Fallon Jean. On peut vous trouver sur Facebook?
Totalement, je suis partout sur Facebook, Coach Fallon Jean.
Merci, c'était très intéressant. À la prochaine fois!
Bonne journée.
Merci beaucoup. De l'autre côté de la pause, le propriétaire de la Barre Chaussures, véritable institution au centre-ville, Philippe Labarre, et un chauffeur de taxi bien avenant, le vice-président de Taxi Coop, Carl Mongeau.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
Bienvenue chez nous à Saint-Joseph-de-Sorel et diffusée ce mardi à 10h15 et à 15h30. Cette chronique mensuelle résume les activités de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Bienvenue chez nous à Saint-Joseph-de-Sorel, une présentation de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
Pour aujourd'hui dans le Grand Sorel Tracé avec de la neige à 40%. On parle d'un ciel variable pour la suite des choses. Maximum prévu près de moins 6, mais il y a toujours du refroidissement éolien. On ressentira moins 15 tout au long de la journée. De la neige pour ce soir et cette nuit avec un ressenti près de moins 13.
CJSO 101.7 FM.
Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune. Avec Sylvain Rochon.
Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucie Daël Parizeau.
Les affaires en pleine pandémie aujourd'hui à la Tribune. Bon midi, Philippe Labarre.
Bon midi à toi.
Je recevais la semaine dernière, Philippe, votre voisin Serge Verrier, sa mercerie. C'est comme votre commerce, la Barre Chaussures, une véritable institution au centre-ville. Depuis combien d'années la Barre Chaussures y est-il installée?
Oui, depuis maintenant 62 ans, imaginez.
Incroyable.
Deuxième génération.
Parlez-moi des débuts de ce commerce-là. Vous marchez sur les traces de votre père?
De mon grand-père, en fait, le fondateur de l'entreprise. En fait, oui, je marche dans les traces de mon père, qui a été précédé par son père à lui. Donc, c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise en 1958. Et tout ça dans un petit sous-sol sur la rue Ramsey. Et si vous saviez, Sylvain, lorsque la boutique est ouverte et que les gens entrent en magasin, je pense qu'il ne se passe pas une semaine où j'entends pas parler du petit magasin de la rue Ramsey. Je pense que ça a marqué l'imaginaire des gens. Et au centre-ville, on est arrivé en 1972. Et récemment, en fait, il y a déjà 10 ans, ça passe vite, on a déménagé l'entreprise pour doubler la superficie de vente à l'endroit où on est actuellement.
Quelle touche personnelle, diriez-vous, avoir apporté au commerce, Philippe, quand vous avez pris la relève?
Mais en fait, moi, j'ai pris déjà la relève avec mon associé Marie-Josée il y a déjà une vingtaine d'années, ça va quand même vite encore là. Et la touche personnelle qu'on a fait, on a voulu rajeunir un peu l'image de la boutique tout en gardant notre noyau de clients qui nous sont encore fidèles. C'est incroyable. Puis oui, le rajeunissement des lignes de produits, rajeunissement de l'image, naturellement, on risque d'en parler un peu tantôt, mais l'entrée dans l'ère des médias sociaux, on est très, très présent là-dessus, ce qu'on n'aurait jamais pensé à l'époque, mais c'est devenu un incontournable.
C'est justement, parlons-en, la crise de la COVID-19 a forcé ceux qui n'avaient pas développé le commerce en ligne à s'appliquer à le développer. C'était pas déjà fait chez la Barre? Vous étiez au premier balbutiement, là?
On était en processus, en fait, Sylvain, ça fait déjà plusieurs années même qu'on y songe et qu'on, non pas qu'on hésitait à plonger dans le projet, au contraire, on y croit depuis le début. C'est simplement et purement un manque de temps. Ça prend quand même beaucoup de temps à monter, même si on est appuyé par des professionnels. Ça prend quand même beaucoup de temps de monter cette structure-là. Et je vous annonce qu'au printemps 2021, dans quelques semaines à peine, oui, on sera officiellement en ligne. Sauf que présentement, pendant la pandémie, naturellement, via Facebook ou encore Instagram, on est très actifs, très présents. Et on peut quand même faire de la vente en ligne via ces deux plateformes-là.
Est-ce que vous étiez personnellement Facebook et Instagram, vous?
Oui, absolument. Je ne suis pas très actif, je ne suis pas le plus actif, mais oui, naturellement. En 2021, ben, sur un point de vue personnel, c'est libre à chacun, mais commercialement parlant, dans une boutique au détail, si on n'est pas sur une de ces deux plateformes-là, c'est très difficile.
Mais là, on voit beaucoup de photos de vos jolies bottes, de vos jolies chaussures là sur Facebook. Je regardais pas plus tard qu'hier, là. C'est tentant.
Non, puis oui, c'est gentil. C'est là pour ça, pour vous tenter. Et non, on a une très, très belle réaction, là, même si on est fermé comme tout le monde, comme tous les commerces, en fait, là, au détail, depuis le 24-25 décembre. Oui, on a une très belle réaction de nos gens. On a une communauté sur les médias sociaux qui est très, très réactive. À chaque fois qu'on fait des publications, les gens commentent beaucoup. Ça nous permet de rester en contact avec notre monde et j'espère que ça leur fait autant de bien que ça nous fait à nous.
Comment ça fonctionne là jusqu'à la réouverture physique du commerce, des souliers puis des bottes? C'est plutôt pratique de pouvoir les essayer. Comment ça marche?
Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est un peu plus difficile à ce niveau-là, sauf que les gens, de plus en plus, sont habitués aux achats en ligne qu'ils vont faire, peu importe dans quel domaine. Naturellement, il y a moyen de retourner la marchandise qui ne fait pas. On est très, très coopératif. Fait qu'on est toujours auprès des gens là-dessus. Là, le suivi, je dirais, Sylvain, se fait de la même façon comme si on était en boutique, mais virtuellement, aussi simple que ça. Mais les gens peuvent les essayer à la maison. Si jamais le produit ne leur convient pas, ça leur fait pas, ou pour toutes sortes de raisons, le produit revient à la boutique, il est toujours désinfecté et mis en quarantaine. Donc, c'est la même procédure que lorsqu'on était en opération là, régulière.
OK. Est-ce qu'il y a de la cueillette, de la livraison? Comment ça...
On fait les deux, mon cher. Donc, pour être le plus près possible de nos clients, on fait les livraisons pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. On fait des envois aussi à l'extérieur. On a des clients qui habitent à l'extérieur, donc on leur envoie naturellement là, sans problème par courrier. Et oui, il y a plusieurs gens qui se sont prévalus du service de cueillette. Donc, on leur donne dans les mains, toujours avec une distanciation. Et ça se fait quand même très bien, le retour de marchandises pour un problème ou un truc qui ne le fait pas est assez minime. Donc, c'est assez exceptionnel.
Merci beaucoup, Philippe Labarre. On se souhaite une réouverture imminente des commerces.
On regarde la date du 8 février avec beaucoup d'impatience. Oui, merci.
J'imagine. Merci, Philippe. Carl Mongeau, vice-président de Taxi Coop, on termine cette émission avec vous. Ça va bien, Carl?
Ben oui, bon midi, Sylvain. Oui, ça va très bien.
Bon, c'est pas facile, cette crise de la COVID-19 pour l'industrie du taxi, à commencer par les mesures sanitaires. Est-ce que vous désinfectez vos voitures avec autant d'ardeur qu'au premier jour?
Pratiquement, oui, je dirais. Là, la plupart le font adéquatement. C'est pas évident pour tout le monde là, à chaque client débarquer selon la température, mais disons que ça se fait, faut le faire, ça se fait. Même la ville de Sorel-Tracy nous fournit du produit avec un produit que les subversifs ont créé gratuitement, fait que les gars les chauffeurs, les propriétaires ont juste à faire le plein à la station et on a les produits, ça nous aide beaucoup.
Les gars puis les filles.
Les gars et les filles.
Et vous allez vous faire parler, vous, là. Masque pour les 10 ans et plus, limite de passagers par véhicule?
Oui, ben tout client qui embarque dans l'auto, dans les taxis, maintenant, il n'y a plus, pas de droit de s'asseoir en avant pour l'instant. On n'a pas le droit de prendre quelqu'un en avant. La plupart des taxis sont munis soit d'un plexiglas ou d'un rideau protecteur. Puis les clients, ben, c'est... De trois, ça peut aller jusqu'à trois s'ils sont de la même bulle familiale, logiquement. Tout le monde sont obligés de mettre des masques, peu importe l'âge, c'est les masques tout le monde.
OK. Le couvre-feu n'a sûrement pas participé à améliorer vos affaires, bien que vous puissiez rouler vos clients. Ils sont sûrement moins nombreux. Ce sont des travailleurs essentiels, surtout?
Ben Oui, on se considère essentiel. Personne du gouvernement a mentionné qu'on était essentiel. Mais on est là, on est encore là. Honnêtement, j'ai fait sortir un tableau hier par un secrétaire trésorier. C'est vraiment dramatique ce qui se passe à partir de 8 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin. On parle d'une baisse d'achalandage de 86%. C'est énorme. Moi, je profite de la tribune pour remercier les chauffeurs de nuit, les propriétaires qui ont des chauffeurs de nuit aussi. Les gars sont là, ils persistent. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. C'est difficile pour eux. Puis je remercie aussi notre clientèle fidèle. C'est sûr, le soir après 8 heures, c'est d'autres choses. Présentement, on n'a jamais vécu ça, personne. On n'est pas à part de d'autres commerces. Là, ça nous rentre dedans beaucoup, beaucoup plus. Mais les gars sont là, sont encore là. On tient à rester là. Il y a du monde qui dépend beaucoup de nous pour soit aller travailler ou retour de travail, évidemment. Et s'il y a des urgences aussi, on est là pour les servir.
Bon, les livraisons, en revanche, j'imagine que ça, vous en faites davantage, notamment avec la campagne d'achat local de la Chambre de commerce?
Oui, ben, je dirais, on a eu, dans la première vague, dans le premier temps que ce projet-là a été intronisé, ça a marché beaucoup, beaucoup. Je vous dirais que dans le temps des fêtes, on a eu des nouveaux clients qui se sont joints à ce projet-là, dont Canadian Tire, qui nous a aidés énormément. Mais là, c'est après les fêtes, c'est un peu l'après les fêtes, même en temps normal. Tous les commerces, c'est difficile janvier, février, après. En temps normal, ça fait que là, en temps de pandémie, je pense que c'est encore plus dramatique. Je tiens à remercier la Chambre de commerce pour ce beau projet-là. Puis j'insiste vraiment, j'invite les commerçants à les approcher pour s'ils sont pas au courant de ce beau projet-là, que nous autres, on fait la cueillette directement chez le commerçant et on va livrer directement à votre maison sans contact, avec un masque. On sonne, on recule, on attend que la personne ouvre la porte. On dépose le colis déjà déposé à votre porte pour une modique somme de 5 $, je crois que c'est un très, très beau projet. Ça nous aide beaucoup aussi, les taxis.
Dernière question, Carl, le temps va vite. Est-ce que cette crise a eu raison de collègues ou si tout le monde a jusqu'ici réussi à garder la tête hors de l'eau?
Tout le monde est encore là. Il y en a certains qui ont profité, ben, je dirais pas profité, mais qui avaient l'intention de vendre leurs droits, c'est ce qu'ils ont fait durant la pandémie. Au cours des derniers mois, je dirais que 6 propriétaires qui ont vendu. Mais tout le monde est encore là. Il y en a qui sont jamais revenus depuis la première vague, qui ont encore... c'est leur droit aussi, puis c'est leur business. Mais la plupart du monde, on est toujours là, puis ça va très bien.
Merci beaucoup, Carl Mongeau. On se souhaite que ce fichu virus s'essouffle, que l'approvisionnement en vaccins s'améliore et qu'on puisse bientôt tous être immunisés.
Merci beaucoup, puis merci. Bonne journée à tout le monde.
Merci, Carl. Merci à l'ensemble de mes invités, Richard Arsenault, Geneviève Bélanger, Geneviève Boucher, Simon Deschênes, Fallon Jean, Philippe Labarre et Carl Mongeau. N'oubliez pas que vous pouvez trouver à Sorel-Tracy, comme le dit la campagne de la Chambre de commerce. Bon après-midi tout le monde sur les ondes de CJSO.